pays quand on va mourir. Blaise n'était pas mourant. Le pire était à venir, il l'ignorait encore. On l'avait fait boire, on l'avait nourri. Quand l'alerte avait retenti et que les bombes s'étaient mises à tomber sur le bâtiment, il avait fait partie de ceux qui pouvaient marcher, des quelques chanceux qui avaient trouvé refuge dans la cave. Il s'était assis par terre, entre une infirmière et un médecin, tous deux plus jeunes que lui, morts de peur. Les autres étaient restés en haut, dans la fumée, dans le bruit des bombes qui explosaient. On comptait les déflagrations, en frémissant. On écoutait les prières qui montaient des bouches paniquées. La jeune infirmière priait, pleurait, elle appelait le ciel à l'aide. Blaise ne se souvient plus de ce qu'il pensait, à qui il pensait. Mais il se rappelle l'horreur et la sidération. En haut, le feu avait pris, bientôt tout s'était effondré. À la cave, les poutres n'avaient pas tenu bien longtemps. Blaise ne sait plus à quel moment il n'avait plus entendu l'infirmière. À son réveil, il était allongé dans cette salle immense, pleine. Il n'avait déjà plus apparence humaine, mais comme son cœur battait encore, on l'avait sauvé. Ceux qui déblayaient avaient été heureux de retrouver quelqu'un, même amoché. Un survivant, c'est toujours une minuscule victoire. Mais d'une certaine façon, il n'est jamais vraiment sorti du trou. Il est à bout. Et il a besoin d'aide. Elle l'a écouté sans l'interrompre. Il lui a jeté au visage ce torrent de mots. Jamais il n'en a dit autant. Elle a découvert sa voix, sa vraie voix, pas celle du malade, de l'impotent, de l'éclopé, à garder, à surveiller. Il a raconté, avec l'aplomb d'un maître, un peu étrange. Pour la première fois, elle a deviné l'homme qu'il avait été. Elle l'a vu comme à l'époque où il avait encore un corps complet, une âme intacte, un avenir différent. Maintenant qu'elle entend cette voix, elle trouve qu'elle colle bien avec la photo de celui d'avant. Elle l'a découverte en fouillant à peine. L'image l'a fascinée. Sur ce cliché encadré que Madame conserve dans le deuxième tiroir de la commode de sa chambre, monsieur se tient debout en uniforme, en soldat. Elle est tombée dessus en cherchant très peu, vraiment pas longtemps. Cet homme-là, elle l'a consciencieusement contemplé. Jeune, bien bâti. Elle l'a trouvé à son avantage. Le large front, qu'elle lui connaît encore. La mâchoire carrée, elle a disparu. Il a été grand, élancé même. Elle a noté des détails. Les épaules de nageur, les mains de pianiste. Et surtout son regard doux. Comment dire ? Elle a cherché à le qualifier, elle a enfin trouvé le mot juste. Naïf. Ce regard-là, quand elle l'a croisé sur la photo, il l'a fait sursauter. Surtout pour sa différence avec celui d'aujourd'hui. Plus frappante que le reste, plus perturbante même que le fait de le découvrir en pleine santé. De cette douceur dans le regard, il ne reste plus rien. Toute la naïveté s'est envolée. Finalement, étrangement, elle sait que c'est ça ce qui a le plus changé. Avant les tortures atroces, monsieur a donc été tendre. Elle l'imagine en tout cas, candide, étonnée de remarquer la cruauté de l'existence, alors que jusque-là, il ne lui était sans doute jamais rien arrivé. Un jeune homme sans problème. Un jeune homme friable qu'on envoie mourir en même temps que tous les autres. Elle se dit, son histoire est presque pire que celle de ceux qui y sont restés. Il en est revenu, c'est vrai, mais quel retour ! Quand il se découvre mutilé, il meurt une deuxième fois. Et ça dure. Et il continue à mourir, il n'en finit plus d'agoniser. Peu à peu, tous les jours, il s'étiole sans fin. Elle sursaute à nouveau. Il lui parle. Elle a presque oublié le malheureux qui lui fait face, a tant pensé à celui qu'il avait été. La voix de celui qu'il était avant a effacé les mutilations visibles. Sa souffrance passée a éclipsé le triste calvaire. Cette existence consumée, pour